Wildcat se finit en beauté, on ressuscite Planetary en douce et on cache des trucs à Superman. Bienvenue dans DC Vu d'ailleurs, épisode 11. Et oui, c'est un épisode un peu particulier parce qu'en fait, il n'a pas été tourné en live. En fait. Qu'on vous explique vite fait, en fait, tout simplement, votre serviteur, c'est-à-dire moi-même, SN Barod, était malade. Voilà. Et alors, en gros, c'est moi qui enregistre, c'est moi qui monte, tout ça. Donc, eh ben, si je suis pas là, eh ben, on peut pas faire. Et comme tout simplement, en fait, l'équipe habituelle, hein, Nico Midnighter et Sofiane. Tout simplement, ce sont des gens qui déjà me font l'amabilité de venir, en fait, et tout ça, et ont des emplois du temps eux-mêmes très chargés. Je ne pouvais pas alors imposer donc une charge de travail supplémentaire, c'est-à-dire faire un enregistrement, faire de la présentation, faire ce genre de choses. Donc du coup, on a essayé une petite chose que j'imaginais faire, en fait, pour les épisodes de Noël, quand on serait peut-être chacun dans nos familles, histoire que vous ayez quand même votre dose. C'est-à-dire qu'on a enregistré un peu à part. Et là, c'est moi, petit Parod, qui est ici en train de faire une petite affaire de Frankenstein, en train de monter tout ça. Mais voilà, j'espère que cet épisode sera quand même bien cool. Rassurez-vous, on a déjà tourné les épisodes d'après, donc je vous confirme qu'ils seront bel et bien en live. Et ils arrivent très bientôt, c'est juste que bah, du coup, ça demande plus de boulot de montage. Voilà, et en plus, bah, j'étais malade et il faut s'en remettre aussi. Voilà, mais on est quand même parti pour voir donc tout ce qu'a fait l'éditeur DC, tout simplement, cette semaine-ci. Et on va commencer avec Nico qui va nous parler de Detective Comics numéro 1077. C'est à toi, mon Nico.
J'ai la chance de vous présenter le meilleur titre Batman à l'heure actuelle, Detective Comics, avec le numéro 1077. Ou 1077, comme on dit par chez moi. Batman est conduit à l'échafaud. Chavotte, la femme avec beaucoup de yeux, lui dit combien elle le déteste. Et elle l'amène à la corde. Et c'est le moment où Ramvi décide de stopper son flash forward et de revenir 3 jours plus tôt, lorsque Catwoman rassemble son équipe, du moins une partie. On retrouve Echo Asigawa, l'autre Catwoman, chez Shire et sa fille Lian Harper, Cassandra Cain, alias Batgirl, et James Gordon. Ils mettent en place un morceau de plan foireux. Diane explique qu'elle peut recruter Solomon Grundy. Selina dévoile une carte inattendue nommée Mr. Freeze. Chacun quitte la planque pour se lancer dans sa mission ou ses préparatifs. Catwoman rend visite à Batman pour lui dire qu'elle va le libérer. Puis elle s'en va recruter Azrael qui a fait un carnage dans les rues de Gotham. C'est encore un très bon épisode pour moi, où Ramvi a l'intelligence de donner le rôle principal à Catwoman. Le braquage se met petit à petit en place. L'équipe que monte Selina est très atypique, et je pense que ça fait tout le sel de l'épisode. Les dessins de Jason Sean Alexander sont toujours excellents, même si il faut reconnaître qu'il y a quelques imperfections. Le style, par contre, ne fait que renforcer le côté un peu fantastique que Ramvi a donné au titre. J'ai aussi beaucoup aimé la sensualité que dégage le dessin lorsque Batman et Catwoman se rencontrent. C'est sexy sans être too much. Ravi a vraiment changé ses jouets. On est vraiment dans un ton un peu pareil et en même temps différent de ce qui a été fait avant. Et ça marche à fond sur moi. Alors pour le backup, souvenez-vous, dans les issues précédentes, dans le tome 2 de Batman Nocturne pour les lecteurs VF, Lian Harper a été capturée par les hommes au service des organes. Elle a réussi à s'échapper de sa cage, a fui, puis a été sauvée par Solomon Grundy. Le backup montre qu'elle s'est ensuite réfugiée chez sa mère, la célèbre assassin Cheshire. Dan Waters, l'auteur de ce backup, réussit à bien montrer la relation compliquée qu'entretient Jade et Lian, tout en proposant une conclusion que j'ai trouvée très touchante. J'ai trouvé que c'était un très bon apport à l'histoire principale, ce que doit être un backup.
Mon avis sur Detective Comics. J'ai trouvé que c'était un excellent numéro. On approche clairement du climax, le braquage qui consiste à récupérer Batman. On voit que on arrive au moment où ça va, voilà, Catwoman organise tout ça, ça va bientôt arriver. Elle a réuni son équipe, les dernières cartes entrent en jeu. Mais non, alors c'est un numéro qui est visuellement splendide. J'adore le Freeze. La version de Freeze dedans est vraiment excellente. J'ai beaucoup aimé non tout, vraiment, je trouve que c'est un très bon numéro. Là, cette semaine, Ramvi m'a doublement vraiment plu, on en parlera plus tard. Mais j'adore aussi la façon, vraiment visuellement, c'est magnifique. La façon dont Catwoman est dessinée, la façon dont Batman est dessiné, la façon dont Freeze est dessiné. Enfin, vraiment, c'est un numéro qui est superbe. Et puis, évidemment, Azrael aussi. Et d'ailleurs, j'ai aussi plutôt bien aimé la backstory. Ce qui m'a étonné, parce que... voilà, ça va juste jouer vraiment sur le rapport entre Cheshire et sa fille. Mais j'ai trouvé ça bien écrit. J'ai trouvé ça vraiment bien écrit, pour le coup. C'est Dan Waters qui a l'écriture sur cette backstory, avec Caspar Wingard au dessin. Et j'ai trouvé que, alors ça fait juste quelques pages, c'est une histoire courte, mais je l'ai trouvé vraiment efficace, pour le coup, dans cette caractérisation du rapport entre cette mère et sa fille, enfin surtout entre cette fille et sa mère plutôt, dans ce sens-là. Mais non, vraiment, pour le coup, j'ai trouvé ça cool. Donc voilà.
Ne quittons pas tout de suite l'univers de l'homme chauve-souris, puisqu'il est temps de parler du numéro 3 de Batman et Robin. Et c'est à toi, Midnighter.
Donc je vais vous parler de Batman et Robin, numéro 3. La série est toujours écrite par Joshua Williamson au scénario, avec Simone DiMeo à la couleur et au dessin. Dans ce numéro, Batman et Robin tentent de protéger White Rabbit du terrible trio mené par Sush. Et on a enfin une première confrontation entre Batman et cette vilaine Sush. Globalement, c'est un numéro de course-poursuite, c'est... pas mauvais, mais j'ai connu Williamson beaucoup plus en forme, notamment sur son Superman. On sait que je suis un petit peu déçu, que je reste toujours un petit peu déçu, même si la relation père-fils entre Bruce et Damian est toujours très bien écrite. Voilà. Il y a un petit... on nous laisse suggérer quelques petits indices sur Sush, sans vraiment nous en dire, à part le fait qu'il serait pas lié au vilain Hush, qui est un ennemi très connu de Batman. Donc voilà, ça c'est un numéro sympathique. En revanche, au dessin, j'ai trouvé que le bas blessait un peu plus. Pas tellement au dessin en fait, puisque les dessins restent très corrects. C'est beaucoup plus la couleur. On a des moments un peu flashback ou autres avec beaucoup plus de rouge. Et j'ai trouvé à ce moment-là que la couleur n'était pas des plus réussies, sans pour autant gâcher le plaisir. Ça reste une série entièrement blockbuster et tout à fait correcte. Quelque chose qui est agréable à lire et dynamique. Mais... une fois plus, si la série Batman et Robin est meilleure que la série Batman de Chip Zdarsky, en revanche, elle reste bien inférieure au Detective Comics de Ramvi, et c'est un problème, surtout quand cette semaine, on a un numéro de Detective Comics par Ramvi qui sort.
Batman et Robin numéro 3, je suis de moins en moins fan, honnêtement. J'aime assez l'écriture de Williamson, généralement. Là, j'avoue que je trouve ça quelque part un peu brouillon, j'aurais du mal à l'expliquer. Mais pourtant, l'histoire est simple, hein, vraiment. Mais je trouve qu'entre l'écriture et le dessin qui est très chargé, vraiment très chargé, très coloré, très chargé dans tous les sens, ça arrive à rendre illisible, alors j'exagère un peu, mais ça arrive presque à rendre illisible quelque chose d'au final... très simple. Et je trouve que c'est dommage. Ça se perd vraiment, encore une fois, vraiment DiMeo, pourtant, dont je reconnais absolument le talent. Je trouve que c'est surchargé, quoi. Et vraiment, il y a trop de couleurs. Vraiment, pour moi, beaucoup trop de couleurs. Puis bon, j'avoue que, du coup, cette chush, donc, cette Hush qui est une ersatz de Hush, mais qui semble-t-il en fait n'est pas liée à Hush. Je la trouve pas très intéressante. White Rabbit n'a jamais été un personnage qui m'a vraiment intéressé. Donc bon, je suis un peu de moins en moins intéressé par cette série, je dois l'avouer.
Pour ma part, je trouve le titre un peu comme mes collègues, un peu facile. Alors, j'arrive à apprécier qu'on essaye de faire des choses un peu plus intéressantes, qui sortent un peu plus de l'ordinaire avec le personnage de White Rabbit, qui a toujours été un personnage qui, pour le coup, a été vraiment, vraiment tertiaire, mais il est tertiaire dans la liste Z des personnages. Ouais, il est vraiment, vraiment pas un personnage qu'on utilise d'habitude. J'aime bien qu'on essaye d'en faire des choses. Après, on reste sur quelque chose de compétent, mais disons que c'est pas quelque chose que je vais suivre avec un intérêt grand.
Batman et Robin numéro 3 est une issue très axée sur l'action, dans laquelle je n'ai pas réussi à rentrer. J'ai trouvé ça terriblement banal. J'ai un peu eu l'impression que Joshua Williamson essaye déjà d'allonger la sauce. Les dessins et les couleurs de Dimeo sont toujours pas ma came, mais ça n'a pas aidé. Vraiment, le titre qui m'a déçu dans mes quelques lectures de la semaine.
Eh bien, il semblerait que nos amis ont du mal avec le côté un peu coloré du titre Batman et Robin. Eh bien, continue quand même dans la couleur et la lumière avec, tout simplement, eh bien, Green Lantern, le numéro 5. Et c'est à toi, Sofiane. Éblouis-nous.
Alors, je vais vous résumer le Green Lantern numéro 5 de Jeremy Adams et Germanico au dessin. Donc, c'est un numéro dans lequel on retrouve Sinistro, qui donc veut réactiver son anneau de la peur parce qu'il est coincé sur Terre, et lui veut retourner sur sa planète et retrouver son fils. Et il va réussir à prendre le contrôle, il a réussi à prendre le contrôle déjà, donc des drones qui avaient été construits par Ferris Industries, la compagnie pour laquelle travaille Hal Jordan, et il va servir de ces drones pour menacer différentes villes, pour créer un schéma de peur, justement, en pensant que ça pourra réactiver son anneau. Mais Hal Jordan, Green Lantern, bien évidemment, va intervenir et va même devoir pousser ses limites encore plus loin qu'il l'avait fait jusque-là. Et qu'est-ce que j'ai pensé du numéro ? Alors, on a vu une backstory, j'en parlerai après, mais qu'est-ce que j'ai pensé de ce numéro ? J'ai beaucoup aimé. Le dessin de Germanico est toujours aussi bon. Je trouve ça vraiment très bien. Ça fait du bien. C'est du simple comic books avec un héros qui doit se dépasser pour sauver la situation, avec du coup des passages super badass de Hal Jordan jusqu'au moment où voilà, il va devoir intervenir dans deux endroits très éloignés l'un de l'autre et où il va devoir lancer ses deux constructs depuis quasi-orbite, sachant que lui-même doit faire attention à pas trop s'éloigner de la Terre, sinon son anneau se désactive. Et donc il va lancer cette case avec Hal Jordan qui lance cet aigle et ce pitbull chacun de leur côté, où chacun doivent à deux endroits différents du monde parvenir à arrêter des drones. Elle est magnifique. Et vraiment, non, c'est... J'ai vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, c'est un numéro. C'est quelque chose d'assez straightforward, comme on dit. C'est une histoire assez simple. Mais je trouve que c'est super efficace. C'est du Hal Jordan, comme on n'en avait pas eu depuis longtemps, pour le coup. Et ça fait vraiment du bien. Et en plus, on a ce cliffhanger avec Sinistro, sans vous révéler ce que c'est, qui donne très envie de voir la suite. Qui donne carrément très très envie de voir la suite. Et en plus, on a donc cette backstory avec le fils de Sinistro, ce qui devient d'autant plus intéressant maintenant qu'on a eu cette news que Tomasi allait justement écrire une série sur les Evil Sons, enfin c'est plus le nom exact, je sais plus le nom exact, mais donc qui va être une espèce de Super Sons version fils de Sinestro et fils de Zod. Donc ça donne encore un intérêt en plus à cette mini-série qui suit et qui est, pour le coup, déjà écrite par Tomasi, mais dont maintenant on sait que c'est un prologue à cette série à venir. Donc voilà, assez curieux de vers où tout ça va aller. Voilà pour moi.
Green Lantern numéro 5 est aussi un titre axé sur l'action. Mais pourtant, j'ai trouvé ça bien cool grâce à l'écriture de Jeremy Adams. Le scénariste a réussi sa caractérisation de Hal Jordan. En plus, les dessins de Germanico sont magnifiques. Par contre, le backup ne m'emballe pas du tout. Je l'ai vite lu et aussitôt oublié.
Pour ma part, j'ai vraiment, vraiment apprécié ce numéro de Green Lantern. Bah, tout simplement, déjà, hein, moi, Jeremy Adams, c'est un petit peu ma cam. Il réussit très, très bien à faire sa personnalisation, non seulement donc, d'Hal Jordan, mais aussi de Sinestro. Sinestro qui est, je trouve, extrêmement touchant, en fait, dans cet échange. On sent qu'il n'est pas là parce qu'il veut être le vilain, il est là parce qu'il n'a pas d'autre choix. Bref, le cliffhanger est très très bien. J'ai un petit peu oublié la backup aussi, mais je pense que j'en ai des bons souvenirs. J'ai souvenirs que j'ai plutôt apprécié sur le moment, mais c'est vrai que là, ça commence à faire 2 semaines et j'ai plus le souvenir. non, écoutez, franchement, un très bon numéro, bah, comme tous les numéros de Jeremy Adams sur Green Lantern jusque-là. Et même si j'ai envie de pousser, allez, comme tous les numéros de Jeremy Adams, tout court, na. Il est désormais temps, eh bien, de passer à quelque chose d'un peu plus jeune, en tout cas avec des personnages un peu plus jeunes, puisque nous allons parler tout simplement d'un autre numéro 5, World Finest Teen Titans. Et c'est toi, Nico, qui nous en parle.
Je vais vous présenter maintenant World Finest Teen Titans numéro 5. Soit le petit bonbon acidulé de Mark Waid. Ce numéro commence par un flashback. L'équipe affronte un super vilain, un petit peu trop bavard. Il est facilement battu avec l'aide de Haywire, un nouveau héros qui passe une journée d'essai chez les Teen Titans. Sauf que ce nouveau héros est pris la main dans le sac en train de voler des dossiers top secret, ce qui n'est pas très héroïque. Haywire est viré. Et je vous laisse deviner qui est le grand méchant de cette mini-série. Dans le présent, les Teen Titans affrontent les Terror Titans de Haywire. Mais ils sont battus, humiliés, parce qu'ils sont incapables de s'entendre à cause des tensions grandissantes entre les différents membres. Pour regagner la confiance de ses camarades, Dick Grayson dévoile enfin son identité à ses compagnons. La revanche aura lieu dans le prochain numéro. Alors, je souhaite d'abord souligner le super travail d'Emanuela Lupacchino, qui vraiment sort un travail merveilleux au dessin. Ça, c'est beau. Franchement, beau à tous les instants. Pour le scénario, l'épisode est plutôt très classique, mais sympathique. Le grand méchant est enfin révélé, ça faisait quand même 5 épisodes que ça traînait. C'est rien de fou, comme vous avez compris dans mon résumé. Mais néanmoins, j'ai passé un bon moment de lecture, et c'est le principal.
Alors, World's Finest Teen Titans. Ah, je suis en train de décrocher. Je suis en train de décrocher Oh là là, vraiment, ouais. J'ai limite pas envie de lire la suite tellement que j'ai du mal. Ouais, c'est vraiment... C'est super bateau, quoi. Le problème, c'est qu'on a des antagonistes dont je me fiche. Avec déjà le mec en face qui appelle son équipe, je sais plus exactement, mais genre c'est limite il a appelé son équipe les Evil Teen Titans, quoi. Donc le truc vraiment qui fait un peu marrer, mais c'est très bateau, quoi. Enfin voilà, l'équipe en arrive à des dissensions et il va falloir qu'ils se réentendent à nouveau, régler les soucis, machin. On est vraiment sur une version hyper simpliste. C'est même pas minimaliste, c'est simpliste. De scénarios, d'histoires de super-héros, mais pas avec un côté plaisant comme je l'ai avec le Green Lantern, par exemple, de Jeremy Adams, où il y a effectivement ce côté minimaliste, mais efficace, vraiment efficace. Là, j'ai pas ce côté efficace, c'est juste, j'ai l'impression que ça comble du vent, quoi. C'est vraiment, faut un titre en plus, bah, tiens, on a qu'à sortir ça. mais il n'y a rien de vraiment intéressant. Quand j'ai pas quelque chose qui me donne un plaisir particulier, aucune des facettes qui me fasse me dire ouais, ça vaut le coup de le lire. Je retrouve rien qui me donne envie de continuer, en fait, tout simplement. Donc non, pour moi, c'est ouais, pour le coup, c'est vraiment un moins. C'est pas mauvais, c'est pas énervant, c'est pas quoi que ce soit du genre. C'est juste pas intéressant, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc ouais, non, pas du tout. Ouais, un gros moins pour moi, pour le coup.
Pour ne pas être perdu, parfois, il suffit de suivre le guide. Et ce guide, eh bien, c'est peut-être Christopher Priest. Tout simplement parce qu'on va parler ici d'une de ces séries, du numéro 8 de Superman Lost. Ah, perdu, Lost, voilà. Ah là là, je suis vraiment désopilant. Mais désopilant, c'est en tout cas quelque chose que n'est pas ce titre. Parce qu'ici, on est vraiment dans du gros drama. Donc Superman a été perdu dans l'espace pendant je ne sais pas combien de temps. Il s'est passé très très peu de temps sur Terre, tout au plus quelques mois, mais pour lui ça a duré des années, des années, des années, et il faudrait qu'il arrive à rentrer parce qu'il aimerait bien aller aider les gens qu'il a été contraint de quitter à contre-cœur. Mais voilà, ça ne fonctionne pas comme ça. Superman est très 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 déprimé. Il essaye de faire des trucs de super-héros, mais il n'y arrive pas vraiment. Donc il commence à discuter avec Metallo plutôt que de lui taper sur la gueule. Ça pourrait limite fonctionner, mais on sait pas, parce que c'est là que Supergirl arrive en grosse bourrine et lui tatane sa mère. À Metallo, hein, pas à Superman. Encore que, enfin, ce serait un autre titre. Mais surtout, le cœur du titre est ailleurs, puisque le cœur du titre est centré sur deux autres personnages finalement très très chers à Superman. Deux personnages qui contiennent les initiales LL. Je parle bien sûr de Lois Lane et Lex Luthor, tout simplement parce que là, dans le dernier épisode, on nous avait expliqué que Lex avait tenté quelque chose de dernier recours, bah, tout simplement pour redonner la patate à son... celui qu'il aime pas trop, mais l'avoir dans cet état, c'est nul, enfin je veux dire, tu vas pas taper un homme à terre, non, moi je suis Lex Luthor, si je veux le taper, je veux qu'il soit au plus haut de sa forme, tout ça, tout ça. Voilà, en gros, il a filé à Loïs un cancer, mais un cancer super mouse, bref, voilà. Et en gros, le numéro s'ouvre, tu as Alex, en fait, qui attend devant un mur et qui dit, là, normalement, Superman, il aurait dû passer à travers ce mur et venir me péter la gueule il y a des semaines. Donc, il appelle Loïs. Ouais, tu lui as toujours rien dit. Donc, en effet, Loïs arrive à cacher des choses à Superman. Lex ne comprend pas comment c'est possible, parce que Superman sait tout, Superman est omniscient, Superman peut tout savoir. Il ne comprend pas comment il ne peut pas s'en rendre compte. Et justement, c'est le problème, c'est que Clark est déprimé. Il n'est plus lui-même. Enfin bref, c'est justement tout un numéro où, en fait, petit à petit, en fait, Superman va s'en rendre compte, ça va mettre des jours et des jours. Et ça se termine sur un magnifique plan où justement on voit Lex qui est toujours devant ce mur et qui attend. Sauf que là maintenant Superman est au courant. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas, il reste deux numéros. Mais il est possible que Superman commence à se reprendre. Surtout qu'en plus il discute aussi avec d'autres de ses potes super-héros comme Adam Strange ou encore Black Adam. Voilà. Alors, le Black Adam, qui est la version qui avait été refait aussi par Christopher Priest dans sa série précédente. Voilà. Je tiens à le préciser, si jamais vous vous posez des questions en voyant ça. Voilà, ça vient de la série de Priest précédente. Un numéro bien meilleur, je trouve, que le précédent, parce que, justement, il est focus sur le cancer de Lois qui essaye désespérément de le cacher, Lex qui veut désespérément que Superman le trouve, et Superman... qui très clairement ne voit pas les signes qui sont pourtant assez évidents parce que Superman, il est vraiment pas dans son assiette. Voilà. Un très 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 bon numéro.
Alors, Superman Lost, j'aime beaucoup ce titre. J'aime vraiment bien. C'est un titre qui est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, ça va certainement en rendre fou certains, hein, puisque c'est vrai que c'est un... on a un Superman qui n'est pas le Superman incroyable, incroyablement puissant. Et je suis un fan de, vraiment un fan de Superman, hein, c'est un de mes persos préférés. Et là, on va entre autres avoir même une version de Superman d'un futur alternatif qui est en fauteuil roulant, qu'un Jimmy plus âgé rejoint alors qu'il revient d'avoir été faire la manche. Donc vraiment à l'opposé de l'image qu'on peut avoir de Superman. Mais je trouve ça très bien écrit, vraiment. Il y a, alors c'est assez verbeux, mais jamais de manière ennuyeuse, je trouve, pour le coup. C'est intéressant dans ce côté très très psychologique, très, enfin voilà, on va vraiment rentrer dans la psyché du personnage. Et donc il y a toute cette frustration qu'il a de ce monde qu'il voudrait sauver, qu'il voudrait retrouver, mais ça lui est impossible de retrouver le chemin. Je trouve aussi que dans ce titre, pour le coup, la gestion, ce qui peut être très casse-gueule, pour le coup, souvent, ce fait d'avoir différentes timelines. Ici, je trouve qu'il y a un bon rythme, que c'est très simple de s'y retrouver, et qui vraiment, ça dérange pas du tout, ces différentes timelines, au contraire. Mais vraiment, non, je suis assez surpris par ce titre, qui, du coup, n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais au départ, mais pour le coup, je trouve vraiment assez prenant. On arrive vers la fin, on est au 8e, sachant que ça va être une histoire en 10 issues. J'aime beaucoup le Lex Luthor aussi, c'est Lex Luthor absolument dégueulasse. De quoi, Loïs ? T'as besoin de mon aide, c'est ça ? T'as besoin de faire revenir Superman un peu à la raison ? Ouais, il lui faut un ennemi et tu sais que c'est moi. Ouais, bon, bah je t'ai filé le cancer. Ouais, je t'ai filé le cancer, ouais, c'est cadeau. Allez, tu repars avec, t'inquiète, tu me dois rien. Voilà. Comme ça, ça va le vénère. Et du coup, il va revenir. Bien fait pour ta gueule. Et puis la réaction de Loïs derrière, comment elle va réagir à tout ça. C'est... Non, vraiment. Et puis les dessins sont très jolis aussi. Vraiment très, très, très jolis pour le coup. J'ai adoré d'ailleurs au début l'ex qui sympathise avec le cambrioleur en mode je te respecte. Écoute, t'as passé les 30 systèmes d'alarme. Parce qu'il y a un cambrioleur qui rentre chez lui au tout départ sur lequel il va tomber. Et c'est t'as passé les 30 systèmes d'alarme. Vas-y, prends ce que tu veux, t'as mérité, c'est bien. D'ailleurs, appelle Méga quand tu veux, un autre jour, et puis on se boit un coup, hein, parce que c'est bien ce que tu fais. Bravo, j'aime beaucoup ton travail. Mais non, vraiment, je trouve ça très bien. Pour le coup, c'est ouais, c'est une approche différente, une vision différente. Il y a tout ce moment avec Métallo aussi qui est cool, pour le coup, avec un Métallo bien badass. Mais non, j'ai vraiment plaisir. Vraiment, vraiment plaisir à lire ce titre où on va retrouver différents personnages. En plus, il y a du Adam Strange, il y a du Black Adam, il y a du Supergirl. C'est... Non, vraiment bon titre. Très, très bon titre pour ma part, en tout cas. Très, très bonne, très, très bonne surprise.
Pour continuer un peu notre métaphore de ne pas trop savoir où l'on est, de peut-être être un petit peu perdu, eh bien, on va essayer de vous donner un point de repère, tout simplement, en vous disant où se trouve la rue du danger, la Danger Street, avec le numéro 11 de cette série, dont va nous parler Sofiane.
Ceci est un cadeau empoisonné. Ceci est un message de détresse. Je suis censé pouvoir résumer Danger Street numéro 11, l'avant-dernière issue de Danger Street. Ceci est une mission impossible. Comment résumer ce titre ? On arrive sur la fin de l'histoire. J'ai du mal à retenir les noms de tout le monde. On commence sur le Creeper qui débarque chez Lady Cop pour récupérer le casque de Fate. Sauf que il va se faire descendre. Enfin, il arrive en tant que sa persona humaine. Sauf qu'il va se transformer un moment en Creeper. C'est évidemment Lady Cop, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va le descendre. Warlord va débarquer plus tard chez elle. Lady Cop, elle va le descendre aussi parce qu'il arrive avec un flingue à la main, ce con. Et donc on se retrouve avec une collection de corps chez Lady Cop. On a les gamins un peu monstrueux, la difforme, qui sont pas très loin dans leur avion avec leur prisonnier. On a une petite scène avec Darkseid et Allfather qui se retrouvent à rire ensemble. Et rien que ça mérite d'être noté, parce que c'est pas un truc qu'on voit souvent. Un Allfather en train de mourir avec un Darkseid en train d'éclater de rire tous les deux. Voilà, rien que pour ça, ça valait le coup. Et puis du coup, le Voilà, il va y avoir une suite d'événements qui vont amener à ce que Lady Cop d'elle-même décide d'aller récupérer effectivement le casque de Fate afin de ramener non plus seulement le gamin qui était mort au début de l'histoire, qui avait été tué accidentellement, mais pour ramener du coup le gamin, le Creeper et Warworld. Ah, ça cuisine, c'est le bordel. On va pas se mentir. Faut ranger un petit peu de temps en temps parce que là, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce titre ? Je suis assez partagé pour le coup. Je trouve ça prenant, je vais pas mentir. J'ai quand même envie d'aller au bout. Il y a vraiment des côtés intéressants, je trouve. Puis tout, voilà, d'avoir été chercher dans ces vieux titres, tous ces différents personnages, je trouve ça plutôt intéressant. Il y a ce côté vraiment très verbeux de Tom King que je trouve pas toujours nécessaire. Il en fait des tonnes. Je trouve vraiment que parfois, il en fait un peu trop. Il y a encore ce tic de vouloir mettre des mots vulgaires et de les remplacer par des symboles, comme ça se fait souvent, mais de le faire beaucoup trop. Et ça me saoule, c'est Tom King, il le fait tout le temps. Mais honnêtement, dans la globalité, c'est clairement pas un titre pour tout le monde, mais pour ma part, c'est vrai que c'est un titre que j'ai plutôt plaisir à lire quand même, sur lequel j'ai plutôt pas mal accroché. Donc et le dessin est très bien, ça de toute façon Tom King ne s'entoure jamais mal quand il s'agit de dessin, donc ce côté-là de toute façon ça n'est absolument pas une surprise.
Alors en fait là je viens tout juste d'entendre pour la première fois donc tout simplement le résumé qu'on a fait Sofiane, je trouve que tu as fait un très très bon travail parce que en effet putain c'est le bordel cette série, c'est le bordel. Je suis d'accord avec toi, je sais pas trop où ça va aussi, je sais même pas si j'aime bien ou pas. Pour tout te dire, en fait, le seul moment où je suis sûr d'apprécier, c'est un peu le même moment que toi, c'est-à-dire le moment avec le Hopper et Darkseid qui discutent. Alors en fait, oui, le Hopper qui est en train de mourir, t'as Darkseid qui est à son chevet. Oh, tu as bien fait, voilà, on l'a fait, t'as Darkseid, tu vois. Est-ce qu'il va y avoir un cinquième monde ? Non. Oh là là, enfin voilà, puis là, ils commencent à rigoler ensemble, enfin bref, c'est excellent moment, mais encore une fois, c'est une page, enfin, il y a aussi la page où Darkseid sort le Hopper, donc, dans des puits de feu, voilà, le reste, en effet, ça reste très confus, c'est plein de personnages qui normalement n'auraient pas dû se rencontrer parce que certes ils étaient dans le même titre mais c'est un titre expérimental où on tentait des choses et aucun de ces personnages ne devrait vraiment être ensemble. C'est vraiment juste Tom King qui s'amuse là pour le coup et juste qui montre « Hey, je peux relier des points, très bien, je sais faire ça, ok, bon. Pour le coup, je sais qu'il y a des titres de Tom King que je relirai avec plaisir, sans doute dans quelques années. Le temps de les oublier un petit peu, d'oublier les mots et d'oublier leur musicalité. Là, non, je ne retrouve pas forcément déjà cette musicalité et je pense que ça ne fera pas partie des titres que je relirai. Ça fera partie des titres que je connaîtrai, dont j'aurai quelques souvenirs épars, mais pas plus, parce que c'est pas le meilleur. Voilà, c'est pas le meilleur. Alors certes, on ne comprend pas toujours tout à ce que fait Tom King, mais c'est pas une raison pour s'endormir, absolument pas, parce qu'en fait, eh bien, ça c'est le boulot du Sandman de Wesley Dodd, dont le deuxième numéro a lieu juste ici, et qui nous a raconté par Midnighter.
On continue toujours ses avis avec maintenant le numéro 2 de la série de Sandman, centré sur Wesley Dodd dans les années 40. Dans le numéro précédent, qui était plus ou moins une réintroduction du personnage dans un style très polar qui lui colle très bien, le personnage Wesley Dodd présentait un projet à l'armée de gaz non létal, ce que l'armée a bien sûr rejeté parce que pour eux ça ne les intéresse pas de ne pas tuer des gens. Sauf que Wesley Dodd rentre chez lui et s'aperçoit que son manoir a été brûlé et surtout que ses travaux et son costume de Sandman a été volé. À partir de là, ce numéro va être vraiment sur une enquête. Donc on se retrouve vraiment dans un style polar, film noir, typique de cette époque, avec tous les éléments assez classiques du héros solitaire, dont on suit chacune de ses pensées, ce qui démontre bien une fois de plus un classique du polar, et qui fait son enquête en cherchant des pistes plus ou moins bonnes avec les moyens du bord, en sachant qu'il a toujours bien sûr réussi à garder quelques armes et un costume en réserve. Au niveau des dessins, on retrouve aussi Riley Rosmo qui fait un excellent travail, très dans son style. Donc si vous aimez l'artiste, n'hésitez pas. Il est vraiment excellent et pour le coup, ça matche vraiment très bien avec son style artistique, le polar noir tel qu'il le représente. Et j'avoue que même si le design du vilain qui est teasé ne me séduit pas plus que ça, en revanche, je n'ai aucun problème à adhérer à ce qu'il racontait pour le moment. Bref, Sandman, comme les brefs Sandman 2, continue sur son excellente lancée après un numéro 1 qui m'avait personnellement beaucoup convaincu.
Wesley Dodds de Sandman, numéro 2, est un bon titre avec une intrigue prenante. Le cadre années 40 est toujours sympa et apporte une touche différente de ce qui se fait actuellement. Wesley Dodds est un personnage intéressant, hanté par ses cauchemars et en même temps très pacifiste. Le coup du double n'est pas très original, mais j'ai quand même envie de lire la suite.
Et oui, qui sait, peut-être que Wesley Dodds aurait pu éviter que son manoir ne crame s'il avait été plus vigilant. Alors là, vous, vous rigolez pas parce que bah, vous avez pas le conducteur sous les yeux, mais moi je sais qu'on va parler tout simplement du numéro 6 et du dernier numéro de The Vigil. Et c'est toi, Nico, qui nous en parle.
J'enchaîne avec un autre titre de Ramvi, The Vigil, et son dernier numéro, le 6e. Dans le chapitre précédent, les grandes révélations de San Karan, le chef, ont fait imploser l'équipe. Mr. Epp, l'ennemi de The Vigil, en profite pour envoyer ses soldats dans l'espoir de se débarrasser de chaque membre de l'équipe. Heureusement, Castle, le petit gamin creepy, avait prévu le coup. Les différents membres de l'équipe survivent et reviennent au bercail pour une dernière confrontation avec l'ennemi. La victoire est de courte durée, puisque le gouvernement indien intervient. De Vigil parvient à s'enfuir dans la plaie. Petite référence à The Authority. Le dessinateur a changé une fois de plus. C'est peut-être le point négatif sur l'ensemble de la série. Il y a un manque de continuité graphique. Même si dans ce 6e numéro, il faut reconnaître que les dessins sont qualité dans un style plutôt mainstream. C'est pour moi une très bonne conclusion pour The Vigil. J'ai vraiment aimé cette équipe un peu atypique, un peu edgy, qui n'a pas peur d'avoir recours à la violence ou au meurtre. La fin est ouverte, il faut le reconnaître. Mais heureusement, il y a une petite phrase qui rassure les fans dont je fais partie, qui indique que The Vigil va revenir et j'irai sur cette suite parce que j'ai vraiment aimé cette première mini-série.
The Vigil de Ramvi, qu'est-ce que j'en pense? J'ai adoré cette conclusion à la mini-série. J'ai trouvé ça très bien. Et ça m'a confirmé un truc, vraiment, en lisant. Et ça me faisait un peu penser au cas de Throne dans la série Ahsoka. Et ça m'a confirmé qu'il faut savoir écrire un génie. Tout le monde ne sait pas le faire. Pour moi, ils n'ont pas su le faire dans la série Ahsoka, où Throne est tout sauf un génie. Et là, Ramvi démontre qu'il sait le faire. Il sait vraiment le faire. Et le gamin, là, qui est un super génie de l'équipe du Vigile, qui du coup, voilà, l'équipe, un peu à la Doom Patrol, l'équipe a appris sa véritable origine. Et je trouve le numéro hyper réussi. Sur ce côté où c'est lui, durant quasiment tout le numéro, c'est lui qui va raconter sa stratégie, qui va amener évidemment à la victoire de l'équipe. Et j'ai trouvé ça vraiment bien foutu. J'ai trouvé ça excellent. Et un truc, Ramvi m'a prouvé deux choses dans ce numéro. Il m'a prouvé qu'il pouvait écrire un génie et il m'a prouvé qu'il pouvait écrire vraiment du badass en termes super-héroïques. On a ce moment, donc on a tout ce plan qui se déroule sous nos yeux, où déjà on a ce côté donc hyper efficace et hyper badass du génie, mais on a aussi cette arrivée de Arclight, justement, en climax, en quelque sorte, justement, de tout ça, qui défonce, je trouve, franchement, j'ai adoré. J'ai eu mes deux moments badass cette semaine avec Hal Jordan et avec Arclight, et la façon dont cette arrivée est préparée, dont elle est narrée par le petit génie, et dont elle est présentée visuellement, dont elle est illustrée. J'ai trouvé ça hyper efficace. J'ai trouvé ça très très bon. Et donc on nous dit que l'équipe reviendra, sachant qu'avec ce qui se passe à la fin, on peut lier ça avec ce qui se passe dans Outsiders, dont on parlera juste après. Parce qu'il y a un truc à la fin de ce numéro de Vigile qui clairement est lié aussi à l'univers Wildstorm, qui du coup est lié à la série Outsiders. Comment tout ça va se rejoindre? Je suis très curieux de voir ça et très impatient de voir ça pour le coup. Donc vraiment non, très bon titre qui se conclut pour moi. Curieux de voir où tout ça nous emmènera pour le coup.
Ah là là, c'est dans ces moments comme ça que je suis content d'avoir une telle équipe de professionnels, vraiment. Puisque bah, même si on enregistre dans des conditions un peu différentes de d'habitude, eh bien, ils arrivent, mine de rien, dans leurs avis, à amener ce qui va être le sujet prochain, puisque, eh bien, en effet, Sofiane a réussi à nous caler non seulement le numéro qui va suivre, mais en plus le numéro qui va suivre encore après, puisqu'on va parler, on va commencer par ça, en tout cas, par le numéro 1 des Outsiders, et c'est toi, Midnighter, qui va nous en parler.
Il s'agit d'une toute nouvelle série, cette fois-ci écrite par Jackson Lanzig et Colin Kelley, qu'on a pu notamment retrouver chez Marvel Comics récemment sur le run de Captain America, Sentinel of Liberty, ou encore chez DC Comics avec les deux mini-séries Batman Beyond, ou encore le One Bad Day centré sur Clayface qui est disponible chez Urban Comics. Au dessin, on retrouve Robert Carré. Pour commencer cette histoire, il s'agit de Batwoman qui vient à la rencontre de Luke Fox, ou plutôt Luke Fox qui rencontre Batwoman alors qu'elle est dans des ruines et qui cherche plus ou moins un entraînement, et celui-ci lui propose de rejoindre une espèce de petite équipe qui s'assure de chercher certaines découvertes un peu cachées dans l'Antarctique notamment, et qui pourraient être plus ou moins liées au multiverse. C'est ainsi qu'on se retrouve donc avec Drummer, un mystérieux personnage qui se nomme Drummer. Alors je ne connaissais pas du tout Drummer, du coup, forcément. Et il s'agit d'un personnage qui vient de l'univers de Wildstorm, qui est en gros, qui a la capacité de communiquer et de contrôler énormément de machines. Et justement, pourquoi des machines? Parce qu'il retrouve en Antarctique un vaisseau spatial de plus de 50 km de long, qui est depuis a priori très longtemps, et qui est la cause de la disparition de nombreux scientifiques. Bref, ça fait un certain plaisir de retrouver ce duo de scénaristes que j'apprécie beaucoup. Parce que ce soit leur Captain America ou leur Batman Beyond, j'ai vraiment trouvé leurs travaux assez bons. J'ai trouvé ce numéro comme étant vraiment quelque chose d'introduction. Attention, pas du tout mauvais. Un épisode presque centré sur lui-même, presque un pilote de série télé. C'est-à-dire que l'histoire du numéro 1 est complète, avec une ouverture sur la suite qui tisse des choses qui sont liées au personnage de Drummer, forcément, qui m'ont limite donné envie de lire un certain titre chez Urban. Et voilà. Bref, c'est intéressant, ça fait plaisir de revoir notamment Batwoman et Luke Fox ensemble, parce que c'est des personnages de la Bat-Famille qu'on a tendance à ne pas voir assez ensemble. Pour les dessins, Robert Carré fait un assez bon travail. Ça reste correct sans pour être autant extraordinaire, mais ça fait largement le travail que c'est demandé. Avec une double page, avec le vaisseau qui est très bonne, notamment par rapport à la taille de l'engin, puisqu'une fois plus on parle d'un objet qui fait plus de 50 km. Et voilà, donc pour résumer, Outsider, c'est un début assez efficace, à voir où ça nous mènera.
Alors, est-ce que j'ai été un peu vache en donnant à Midnighter, tout simplement, le fait de parler de ce titre? Peut-être un petit peu, mais j'avais une idée assez particulière en tête, parce que j'avais déjà lu le titre quand j'ai décidé que ce serait Midnighter qui le ferait. C'est-à-dire que oui, en fait, c'est une relance d'un titre qui s'appelle Outsiders, mais qui, en fait, est une relance cachée d'un autre titre très connu, pour le coup, de l'univers Wildstorm qui s'appelle Planetary, qui très clairement est rempli de références à ce titre, donc déjà avec le personnage donc, de The Drummer, qui est en gros ce qui reste de cette équipe. On a en fait énormément de références à ce titre et tout ça. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait forcément avec la réaction de Midnighter, c'était de savoir si ça pouvait plaire aussi à des gens qui n'avaient pas lu Planetary ou qui ne connaissaient pas. Je suis très content de voir que c'est le cas, que ça l'a suffisamment intrigué. Je pense qu'il n'a pas tilté à des mots comme Bleed Safe, qu'il n'a pas tilté sur des trucs comme les Century Babies ou ce genre de choses. Mais voilà, c'est tout simplement le titre Planetary qui revient, et Planetary, c'est un de mes titres préférés, tout simplement, de l'éditeur Wildstorm. Et je suis assez confiant, au vu de ce qu'on vient de voir, des personnages qui nous sont montrés, que ce titre-là puisse réussir enfin, peut-être, à faire une fusion correct et convenable des personnages de l'univers DC et de Wildstorm, qui sont toujours des choses que j'ai toujours du mal à voir ensemble et où j'ai vraiment l'impression de les voir un peu séparés. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu dans l'épisode d'après.
On a eu droit donc au premier numéro de Outsiders, l'arrivée de Lansing et Kelly chez DC. Eh ben, j'ai bien aimé ce premier numéro. J'ai vraiment bien aimé. Déjà, ça fait très plaisir de voir le retour de Batwoman. Ça faisait quand même un sacré moment qu'elle avait été oubliée. Ça fait depuis Tynion qu'elle était au mieux en très second plan. Le retour de Luke Fox, ce qui fait bien plaisir aussi. Ce nouveau personnage, en tout cas nouvelle version d'un personnage de The Drummer. C'est assez marrant, le hasard a bien fait les choses, parce que justement, je lisais Planetary. J'ai commencé Planetary, justement, j'en suis à la moitié là. Donc ça tombait bien, avant de lire ce titre Outsiders, qui est très clairement, une suite spirituelle à Planetary. On voit même, c'est marrant, ils ont même habillé Luke Fox en blanc, justement, pour rappeler Snow, un des personnages de Planetary, et Drummer qui est un personnage de Planetary, même si là c'est une autre version vu qu'à l'époque c'était un mec. Mais j'aime beaucoup, vraiment, je trouve que visuellement c'est plutôt cool. J'étais un peu incertain au départ sur le côté visuel, mais je trouve que ça s'améliore un peu, ou alors moi qui m'y suis habitué au fil du numéro. On a plusieurs références à l'univers de Wildstorm, entre autres un certain vaisseau géant qu'ils vont retrouver à un moment. J'aime beaucoup ce délire de former une équipe qui va vraiment enquêter sur... c'est vraiment un côté, voilà, c'est du X-Files. C'est du X-Files dans DC. Mais en version, voilà, on va enquêter sur des choses très étranges de notre monde. Et ça me donne envie. Je suis vraiment curieux de voir, du coup, vers où... C'est encore tôt, c'est un premier numéro. Donc, forcément, c'est une mise en place qui est très intéressante. Maintenant, ce qui va vraiment donner la qualité du titre, ça va être les enquêtes, ça va être effectivement les sujets que ça va traiter, ça va être comment ça va relier tout ça, quel sera le fil conducteur. Donc voilà, ça c'est les parties qui vont vraiment me permettre de décider ce que je pense du titre à terme. Mais en tout cas, cette mise en place, je la trouve vraiment intéressante. Avec en plus cette référence au bébé du siècle. Donc encore quelque chose, voilà, qu'on connaît quand on a lu un peu de, voilà, Authority, Planetary, enfin toutes ces séries Wildstorm. Vraiment curieux, vraiment 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 curieux tout ce que ça peut donner. Ça peut être un titre qui me plaît beaucoup, je croise les doigts, mais ça part bien en tout cas. Pour le coup, je suis assez impatient de voir la suite.
Et oui, en effet, si vous avez bien suivi, nous sommes dans un gros tunnel Wildstorm, puisque Sofiane a réussi à nous en parler dans The Vigil, en même temps à raison, hein, au vu de la fin du titre. Nous avons aussi donc eu donc, tout simplement le retour de Planetary un peu caché via The Outsider, et je vous ai dit que eh bien, ça ne s'arrêtait pas là. Parce que bah, on va parler du 12e et dernier numéro d'une série Wildcats, qui était juste quand même la série phare de l'éditeur Wildstorm, mine de rien. Wildcats, du coup, oulala, c'est un... Alors, la série, je l'ai trouvée un peu brouillonne, mais en tout cas, je trouve que ce dernier 12e numéro est assez intéressant, parce que c'est que de la baston, mais de la baston bien faite. On donne vraiment des moments de bravoure un peu à tout le monde, où y a de très jolis moments, c'est très très bien. En plus, c'est pas une baston juste entre deux groupes, hein. Non, c'est une baston entre trois groupes, hein, parce qu'on a donc les Wildcats, on a donc la nouvelle version donc, des Seven Soldiers of Victory, qui s'est lancée il y a quelques temps, et la Cour des Hiboux aussi, et oui, et donc tout ce petit monde se combat pour en fait garder le contrôle tout simplement de l'organisation Halo, et aussi bah, de tous les secrets que celle-ci contient. Je trouve que les dessins sont très bien, en fait, ils sont 90s, mais pas trop 90s, je trouve qu'ils marchent très très bien, là, pour le coup. Vraiment, quand ça bastonne, ça marche très très bien. Ça me fait super plaisir de retrouver Caitlin Fairchild, même si c'est une version un peu différente, bien sûr, parce que bah, tous ces personnages ont été intégrés dans l'univers DC depuis déjà quelques années et ont eu quelques décisions parfois un peu malheureuses. Et bah, bien sûr, Matthew Rosenberg, qui scénarise ceci, doit faire avec. Je tiens aussi à dire que Danny Kim et Tom Derenick font ici du très très bon taf niveau illustration. Je trouve que oui, tout le monde arrive à avoir son petit moment de bravoure. La fin est peut-être un peu simple pour faire tomber notamment la cour des hiboux. Voilà, hein, ça, disons que ça fonctionne parce que c'est ce personnage-là et parce que c'est un coup de poker. Ok, on laisse passer. On a plein de caméos de plein de personnages en fait de l'univers Wildstorm qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Enfin, certains depuis très longtemps. Je veux dire, on a donc la version donc d'essai de Vaudou qui est mise. Vaudou qui était quand même un titre de lancement des New 52 et depuis on n'en entend plus du tout parler. On a d'autres personnages dont je sais un qui va faire très plaisir à notre ami en M, voilà, pour ne pas citer le personnage, mais je le fais quand même. Et je suis juste un peu interrogatif sur ce qui se passe entre deux personnages que j'ai vus pourtant ensemble au début d'un titre récent, Birds of Prey, en fait, pour ne pas le nommer. Il y a tout un truc, en fait, entre Zialot et Grifter, en fait. Alors, tu sens qu'ils s'aiment bien, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais on va dire que Grifter est laissé dans une position où, voilà, peut-être une difficulté niveau continuité. Mais voilà, c'est une fin qui fonctionne, on va dire, et qui est beaucoup plus intéressante que le numéro 11, qui était extrêmement verbeux, qui était, voilà... Là, au moins, on est verbeux pour faire de la castagne ou pour avoir des payoffs dramatiques. Voilà, je pense à toute la discussion de Grifter face à la cour des hiboux. Voilà, on a un petit caméo aussi de Black Canary et tout ça qui viennent dire coucou. Voilà, bon, écoutez, franchement, c'est une bonne fin. C'est une bonne fin. Je suis curieux de savoir ce qui va arriver à ces personnages par la suite, puisque je sais seulement pour Zialot. Mais bon, c'est vrai que bon, on a beaucoup parlé là du coup de personnages qui, mine de rien, ont été créés dans les années 90. Il est temps de parler à des personnages un peu plus récents, puisque eh bien, c'est un titre d'équipe, un duo dont eh bien, le plus vieux a été créé la décennie précédente. Donc ça va, on s'en sort plutôt bien. On va donc parler d'un numéro 1 en plus, le numéro 1 de Speed Force. Et c'est toi, Midnighter, qui nous en parle.
Maintenant, nous allons parler d'une nouvelle série qui se nomme Speed Force. Cette série, écrite par Jared Williams et dessinée par Nicolai Di Nuoculo, nous compte les aventures de Avery Ho, a.k.a. The Flash, qui vient de Justice League of China, et de Wallace West, a.k.a. Kid Flash. Ils sont donc tous les deux en train de s'amuser à jouer à la console avec Superboy, lorsque, après le départ de Superboy, une alerte sonne, leur signalant que des scientifiques sont enlevés. C'est un début assez efficace. On revoit en plus d'eux quelques autres speedsters, notamment Massimeno, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, qui sont deux speedsters mexicains. Et ça fait toujours plaisir à voir. Ensuite, ils sont donc dans une course-poursuite pour éventuellement les arrêter, et ça s'arrête assez là. C'est un début assez simple, je dois avouer, très classique, avec le mystère qui se crée, qui semble entourer des scientifiques a priori plus ou moins connecté aux études de la Speed Force, et un méchant qui est teasé au bout du compte. Ce qui est aussi intéressant de rajouter, c'est que le titre s'insère pleinement par rapport à ce qui arrive à... dans la série Flash Wally West, tout simplement parce qu'on évoque rapidement les événements avec Wally West. C'est-à-dire que concrètement, on sait très bien que là, c'est une affaire que Wally West ne pourra pas résoudre parce qu'il est occupé de son côté, et du coup, ça va être Wallace West et Avrio qui s'en occupent. Au niveau des dessins, Dino Golo fait un bon travail, même si j'avoue ne pas être un immense fan de son trait. Mais certains moments ont un dynamisme qui porte très bien, notamment tous les moments du combat entre le duo et Emma Siménos.
Speed Force, un numéro, je trouve, très classique. En ce sens que bon, c'est des choses qu'on a déjà vues et enfin voilà disons que pour l'instant dans ce numéro 1 on n'est pas là pour l'originalité. Voilà, c'est un titre que je n'ai pas détesté mais que je suis pas sûr de revenir à chaque fois. J'ai du mal un petit peu avec parfois la mise en page donc du dessinateur Daniele Di Nicolo. Par contre, j'adore l'énergie qu'il arrive à mettre dans les visages. Moi, c'est quelque chose qui me parle énormément. Je veux que mes personnages réagissent et qu'ils aient des têtes et que je sache exactement ce qu'ils pensent. Et là, au niveau tête, il y a un vrai défilé. Je suis également... d'accord, vous me prenez par les sentiments, très bien. Le méchant, c'est le Music Meister. Et c'est un vilain que j'aime bien. Et puis voilà. Donc curieux de voir la suite. Pour l'instant, j'aurais du mal vraiment à savoir exactement quoi en penser. Il y a du bon et du moins bon. C'est un titre qu'il faut que je continue à lire pour vraiment avoir une opinion.
Alors, Speed Force, un autre premier numéro, j'ai moins accroché celui-là. J'ai clairement moins accroché. C'est pas mauvais, c'est juste, je pense, pas vraiment pour moi. C'est un titre qui se veut très manga, ce qui est pas pour me déranger, le côté-là. C'est clairement un titre qui essaye vraiment d'aller chercher du côté du public manga. Mais alors du coup, par exemple, sur les visages, genre le visage de Superboy, j'aime pas du tout. Mais vraiment pas du tout, qui apparaît vite fait dans le numéro. Alors on voit que ça va vraiment, c'est un à côté de Flash. On nous montre d'ailleurs des scènes qui sont passées dans la série Flash de Spourier, mais avec un ton complètement différent vraiment du ton. Alors je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de relier les histoires tellement les tonalités sont extrêmement différentes. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment plus destiné à un jeune public quand même. Alors c'est sympa, on a deux espèces de personnages qui deux frangins qui font une apparition. Et je voyais justement, c'était l'artiste du titre qui avait confirmé que dans leur design, et en particulier il parlait de leurs lunettes, c'était un clin d'œil à sa série animée préférée, et il a bon goût, parce que du coup il s'agit de Gurren Lagann. Ce qui est marrant, parce que Gurren Lagann, c'est déjà la série qui avait joué sur le design de Joe Cullen pour Far Sector, la Green Lantern, qui, pareil, a ses mêmes lunettes. Voilà, parce que, justement, pareil, c'est Jamal Campbell, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est aussi fan de Gurren Lagann, ce qui se voit d'ailleurs aussi dans Far Sector, parce qu'il y a aussi des constructs qui ressemblent vraiment aux robots, justement, de Gurren Lagann. On voit qu'il y a pas mal d'artistes qui ont été marqués par cet animé, et c'est bien, c'est normal, parce que Gurren Lagann, c'est extraordinaire, et il faut le regarder si vous l'avez pas encore fait. Mais en tout cas, ce numéro, qui n'est pas mauvais, loin de là. C'est pas la critique que je lui fais. C'est juste vraiment que je pense que je suis pas la cible. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut. Ça serait triste si j'étais la cible de tous les comics, parce que ça voudrait dire que plein de gens n'en auraient pas pour eux. Donc tant mieux, j'en laisse aux autres. Si ça peut plaire à d'autres, c'est très bien, ça me fait plaisir. C'est juste clairement pas mon genre. Je suis pas très client. Voilà. Voilà mon avis sur ce titre.
Alors oui, nous sommes désolés, on n'a pas pu malheureusement quand même traiter tous les titres de cette semaine. Nous avons laissé de côté le numéro 275 des Looney Tunes, déjà parce que le précédent n'était pas terrible. Même si je l'ai feuilleté un petit peu, il était un peu plus rigolo, c'était des trucs sur Marvin le Martien, ça me parle un peu plus. Mais voilà, on ne saurait quand même se quitter sans notre petit bonbon habituel, et on va laisser tout simplement Sofiane nous parler du numéro 10 de Superman versus Meshi.
Et évidemment, nous finissons par le bijou, le bonbon, le cadeau. Nous finissons par Superman versus Meshi, avec une superbe couverture d'un Batman à califourchon sur le dos de Superman en train de lui tenir des dangos pendant que je pense que c'est des dangos ou des Takayashi, je sais plus exactement, et de faire manger en petit tient la baguette pour que Superman puisse manger en volant, et ça c'est magnifique. Dans ce numéro, Superman, alors Batman a encore loué tout un restaurant pour que lui, au Japon bien évidemment, pour que lui et un restaurant chinois pour que lui et Superman puissent manger tranquillement en costume. Mais c'est là que le terrible arrive. Alors que Superman poste ses photos sur une application qui s'appelle Pixtagram, tout le monde connaît Pixtagram, bien évidemment, l'Instagram de cet univers, mais là, il se rend compte que son adversaire, son arch-ennemi, l'homme contre qui son destin est de lutter, Lex Luthor, a commenté sa photo de bouffe. Il a commenté. Ouais. En disant qu'il avait déjà mangé ce genre de choses. Et là, Superman voit ça évidemment comme un défi. Mon Dieu, est-ce que Lex Luthor sait que c'est moi Superman ? Est-ce que c'est juste qu'il commente comme ça par hasard ? Je ne peux pas le laisser faire, ce n'est pas possible. Et Superman se rend compte que Lex Luthor ne cesse de poster des photos de bouffe plus luxueuses à chaque fois. Des viandes, des bœufs de Kobe, des sushis au homard, des choses incroyables. Des choses très snob. Et en plus, non seulement il poste de la bouffe, mais il laisse entrevoir à chaque fois qu'il est accompagné, en plus, le culot de Lex Luthor. Superman ne peut pas se laisser faire. Il abandonne Batman comme ça dans le restaurant en mode « Désolé, j'ai une urgence ». Son urgence, c'est quoi ? C'est d'aller dans un autre restaurant où il sait que la bouffe est extrêmement pixtagrammable. Et donc, il va commander tout un ensemble de plats afin d'impressionner lui-même à son tour Lex Luthor. Parce qu'on rigole pas avec ça. Il faut être le meilleur sur Pixtagram. Et c'est comme ça que le combat de Lex Luthor et de Superman va réellement se régler. Ça sera sur Pixtagram. Et donc, il prend ses photos, il en est super content, tout se passe bien. Bon, surtout il mange. Il mange, il fait plaisir. On nous fait encore découvrir différents plats japonais et chinois, pour le coup, dans ce numéro. Dont une magnifique omelette. En plus, c'est marrant parce que, justement, j'ai vu une vidéo hier, je crois, sur justement, c'est une des omelettes qui est considérée comme les plus difficiles à préparer dans le monde. Et je voyais justement une vidéo hier sur comment ils faisaient. Voilà. Anecdote qui n'a strictement aucun intérêt. Mettons-nous d'accord. Il y a quand même un moment où Superman avoue. En gros, il remplace la femme sur les photos de Luthor par une soupe qui accompagne cette recette d'omelette au crabe. Et on a quand même cet aveu de Superman que, face à une femme, je choisirais toujours la soupe. Eh ben, ça ferait plaisir à Loïs de le savoir, on va pas se mentir. Et on retrouve à la fin Clark au Daily Planet. Et alors, et le pire, donc il n'y a pas de conclusion. C'est-à-dire que c'est peut-être que c'est vraiment un arc. Il va y avoir un arc, Lex Luthor contre Superman, sur Pixtagram. Parce qu'on n'a pas la conclusion dans ce numéro-là. Mais, en revanche, on retrouve Clark Kent au Daily Planet. Et alors que Jimmy et d'autres sont impressionnés par le Pixtagram de Lex Luthor et de ses photos de nourriture, il y en a une. Il y en a une qui sait. Il y en a une qui a du goût. Il y en a une qui sait le meilleur. Et c'est Loïs. Loïs, qui remarque ce compte appelé Super Meshi, qui se demande si c'est vraiment Superman, mais qui en tout cas trouve ces photos de nourriture très intéressantes. C'est... Que dire ? C'est un bijou. C'est un bijou, c'était... Voilà. C'est encore n'importe quoi, c'est encore formidable. C'est tout ce qu'on demande à ce titre. C'est encore une usine à même. Il y a une case en particulier qui est absolument incroyable, avec la tête de Superman... qui vraiment n'est pas possible, à la bouche grande ouverte, où vraiment ça pourrait tirer d'un hentai, on va pas se mentir, et c'est juste l'effet de la nourriture, et c'est absolument splendide. Lisez Superman versus Messi, vraiment, ce titre est incroyable, c'est un bijou, une perle, ne nous le retirez pas, je veux que ça continue toujours, je veux que ça devienne le One Piece du... Voilà, un nouveau One Piece. Je veux 1500 chapitres de Superman versus Messi. Je pense qu'il y a de quoi faire. En tout cas, voilà, pour mon avis sur ce titre.
Mais en tout cas, merci Sofiane, ça fait toujours plaisir de t'entendre parler de ce titre, c'est toujours aussi fun. En tout cas, bah voilà, nous c'est la fin de cet épisode 11 un peu particulier, hein, une sorte de créature de Frankenstein un peu montée de différentes pièces et tout ça, voilà. On a essayé de faire au mieux, donc avec toute l'équipe, on espère que ça vous a plu quand même, et on vous dit salut. Là je me rends compte que j'ai pas dit à mes camarades de dire salut aussi, donc c'est bien, ça nous fait un crash test, j'essaierai de penser à... Alors demandez de faire ça pour la prochaine fois où on sera dans ce genre de situation. Mais je vais quand même aller nous chercher un petit extrait de la seule personne sans qui on ne peut pas conclure décemment un épisode. Et salut.
Salut.
Je veux que ça devienne le One Piece du... un nouveau One Piece. Je veux 1500 chapitres de Superman versus Messi.